Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure. Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur mesure, fabriquées dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort, 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis 3 générations.
Toute l'information locale et départementale sur Demoiselle FM.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, la vague de chaleur se poursuit en Charente-Maritime. Notre département reste en alerte orange canicule. On a enregistré 40,7 à Saintes ou encore 38,4 à Ars-sur-Gironde en Pays Royennais hier après-midi. On attend encore des températures élevées cet après-midi jusqu'à 38 degrés à l'est du département. Moins en revanche sur le littoral, 29 à 34 degrés. Soyez prudents, hydratez-vous et prenez des nouvelles de vos proches. À Rochefort, le mécontentement des salariés de BT2I, ex-CIMER. Ils ont débrayé hier matin pendant environ 2 heures à l'appel de la CGT pour protester contre les premiers résultats des NAO, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. La direction a proposé un peu plus d'1% d'augmentation généralisée ou individuelle. Mais pour le syndicat, cette offre ne couvre même pas l'inflation et l'augmentation des prix. Laurent Rivasso, délégué CGT chez le sous-traitant aéronautique, demande à la direction de revoir sa copie.
C'est-à-dire on a une enveloppe qui est imposée par BT2I. En gros, c'est 2% par an. Mais vu les améliorations, on nous parle d'amélioration continue. Les gens ont joué le jeu, ont subi plusieurs transformations, des nouvelles règles qui ont été mises en place au sein des ateliers, donc SQDIP, méthode de travail, 5S et compagnie. Les gens se plient, font, et on arrive à une nette amélioration en quelques mois, enfin en 6 mois. Et on dit, nous, les NAO, il faut récompenser les gens pour conserver cette dynamique. La direction, donc, il se bloque à ces 2%. Bon, on est à 2,1 pour les non-cadres, sachant que l'année dernière, on avait 1,9 avec une amélioration des chèques vacances et un accord d'intéressement, donc qui perdure encore aujourd'hui. Mais pour nous, c'est pas, on n'y est pas, quoi, parce que l'inflation est de 2,4%. Et au vu des efforts des salariés, on n'accepte pas qu'on nous ferme la porte à ces 2%.
Laurent Rivasso qui souligne les efforts consentis par les salariés de BT2I pour redresser l'entreprise après une phase de turbulence.
A commencé à aller beaucoup mieux, parce qu'on a passé des périodes difficiles. Hein. On a eu un PSE, on a eu plein de transformations, on a récupéré des outils défaillants qui n'ont toujours pas été remis au goût du jour, donc on galère avec des moyens de production détériorés. Et malgré tout ça, aujourd'hui, on devrait finir l'année à l'équilibre ou pas loin. Alors que l'année dernière, on finissait à moins 1 300 000, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on dit, en gros, là, on se porte plutôt bien, il y a une bonne dynamique. Et nous, les NAO, c'est un moment important pour dire qu'il faut conserver cette dynamique. Sachant que les salariés, entre autres, ont vécu aussi la casse des classifications par le biais de la nouvelle convention collective de métallurgie. Donc on a des techniciens d'atelier aujourd'hui qui ont été mis B3, B4, c'est-à-dire en bas de la grille de classification. L'année dernière, lors de la négociation annuelle obligatoire, l'ancien directeur, parce qu'on a changé de directeur, s'était engagé pour revoir ses classifications. Mais en fait, ils disent toujours, oui, mais faut être patient, faut attendre. Alors nous, par contre, en production, on n'attend pas, on fait de l'amélioration continue, on joue le jeu, on se plie aux exigences qu'on nous impose. Par contre, l'amélioration continue de leur côté, il me semble qu'ils n'y sont pas, quoi. Donc on m'a toujours appris, il ne faut jamais imposer aux autres ce qu'on n'applique pas à soi-même. C'est une règle en or.
Nous avons tenté de contacter la direction de BT2I Rochefort qui nous a simplement répondu que personne n'était disponible. La communauté d'agglomération Royan-Atlantique inaugure aujourd'hui le nouveau système d'endiguement de barres en plage, un chantier de 1035 mètres avec un rideau de pales planches, de l'enrochement et du béton armé. Il s'est déroulé entre novembre et juin pour 2,8 millions d'euros hors taxes pour protéger la commune des submersions marines. Après les tempêtes Martin et Xynthia notamment, la gestion du système sera désormais assuré par la CARA. 88,7%, c'est le taux de réussite pour le bac 2026 en Charente-Maritime. Il était de 87,8% l'an passé, c'est donc un peu mieux. Dans le détail, 91,3% en bac général, 85,9% en bac techno et 85,2% en bac pro. Une école pour les enfants souffrant de troubles de l'attention, 10 et TDAH en projet à La Rochelle. Elle s'appellera EDIS, une école privée laïque hors contrat qui devrait ouvrir ses portes fin septembre, début octobre à Lalleux. L'opération est portée par l'association Tous 10. Il s'agit de créer une école pour les enfants de 9 à 15 ans présentant des troubles du neurodéveloppement, d'inattention ou d'hyperactivité. Tous 10 a déjà créé un premier établissement EDIS en 2021 à Aisine, en Gironde. Et elle répond à un besoin croissant des familles qui peinent à trouver une scolarisation adaptée à leurs enfants. Anne-Cécile Monnier Touma est responsable de l'antenne de l'association Tous 10 à La Rochelle. Elle a 3 enfants. L'une de ses filles souffre d'un trouble de l'attention avec phobie scolaire. Elle n'a pas trouvé de solution à La Rochelle et elle a souhaité se lancer dans ce projet. Anne-Cécile Monnier Touma.
L'enjeu, c'est d'avoir une école qui redonne confiance dans des enfants qui sont en souffrance dans le système classique. Les axes principaux de l'école, c'est des petits effectifs, des classes d'environ 8-10 élèves. Le deuxième point, c'est des outils de compensation intégrés, donc les ordinateurs, les casques anti-bruit, des logiciels spécifiques en fonction des besoins propres à chaque enfant. Le troisième point, c'est l'intégration d'une ergothérapeute dans la structure qui intervient pour accompagner à la fois les enfants et à la fois les enseignants. Et en parallèle, on a une salle de thérapeute pour que soulager les familles de tous les rendez-vous et pour accueillir des professions en libéral au sein de la structure, donc des psychologues, des orthophonistes, des psychomotes, des ergothérapeutes. Nous avons déposé le dossier auprès du rectorat, nous sommes en échange avec eux et nous attendons une réponse de leur part qui devrait venir dans les prochaines semaines.
Une école pour les 9-15 ans, en particulier pour les collégiens qui peuvent être en très grande souffrance dans les établissements dits classiques.
Il y a un peu une errance sur la partie collège. En fait, on s'adresse à des enfants qui sont en souffrance dans le système classique, qui ne sont pas assez handicapés pour avoir des aides ou être dans des écoles spécifiques, type Ulysse ou IME. Donc, il y a vraiment une zone d'errance. En fait, depuis 2005, il y a une loi qui a été votée, qui est l'école inclusive. Et donc, c'est très honorable, mais il y a un manque criant de moyens, avec notamment des classes surchargées, des enseignants qui ne sont pas formés et qui veulent bien faire, mais n'ont pas les moyens de bien faire. Alors, on ouvre les préinscriptions. On a déjà des familles qui croient en notre projet. Nous cherchons une dizaine de familles pour pouvoir ouvrir l'école. Il faut toujours des premiers, donc je sais que c'est compliqué pour les familles de s'engager, mais on a besoin de personnes, de familles qui croient en notre projet. On organise régulièrement des réunions d'information et on espère ouvrir le 1er octobre.
Prochaine réunion le 20 juillet en visioconférence et le 7 septembre dans les futurs locaux. Plus de précisions sur edis.fr. EDIS. Enfin, le village d'enfants de Beauvais-sur-Matha recrute. Il organise ce mercredi une journée de recrutement au sein de ses locaux. Il a ouvert en juillet 2018. Le village dispose d'une maison commune et de 8 maisons familiales qui peuvent accueillir jusqu'à 36 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Plus de 25 professionnels y travaillent actuellement. On se retrouve dans un instant.
Cet été, le car, c'est mon plan malin. Pour rallier l'île d'Oléron depuis La Rochelle, j'ai la solution économique, pratique et écologique. Avec la ligne 155, je me laisse conduire par les cars régionaux. À 2,50€ le trajet ou 4,50€ l'aller-retour, à moi les belles échappées. Info sur transport.nouvelle-aquitaine.fr.
En été, il y a des adresses incontournables pour une bonne table. La Chaloupe, votre restaurant à Port-des-Barques, en fait partie.
La Chaloupe, c'est une salle et une véranda de plus de 100 mètres carrés avec une vue panoramique imprenable sur l'estuaire de la Charente.
Avec les produits de la mer et du terroir, venez apprécier une cuisine traditionnelle et raffinée en semaine et en week-end.
La Chaloupe, en été, ce sont des week-ends plancha avec buffet d'hors d'œuvre à volonté dans son jardin ombragé par les oliviers.
Tous les dimanches également, spécialité tête de veau.
Baptême, mariage, anniversaire, séminaire, La Chaloupe peut accueillir jusqu'à 120 convives.
Restaurant La Chaloupe, 49 avenue de l'île Madame, à côté de l'école de voile à Port-des-Barques. Parking privé, 05 46 83 00 10.
Pour votre santé, bougez plus.
Cet été, gardez la tête froide avec Climenco 17, votre spécialiste de l'installation de climatisation et pompe à chaleur à Rochefort et ses alentours. Faites des économies d'énergie et profitez des aides de l'État grâce à notre qualification RGE. Venez découvrir notre nouveau showroom au 21 rue du Port à Rochefort sur rendez-vous. Climenco 17, votre confort est notre priorité. Contactez-nous dès maintenant au 07 45 01 64 80. Climenco 17, la solution confort toute l'année.
Le Littoral, c'est chaque semaine des reportages sur la vie locale, sociale, économique, politique et culturelle de la Charente-Maritime. Annonces légales, sorties ciné et loisirs, votre journal vous informe au plus près de l'actualité. Le Littoral, en vente chaque vendredi chez votre marchand de journaux.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Miroir de l'océan, c'est le titre d'une exposition à découvrir en ce moment à Saint-Pierre-d'Oléron au château de Bonnemie. L'artiste, peintre et sculpteur Arnaud Casperi présente ses différentes œuvres d'art. Un double événement culturel en fait, puisque la médiathèque municipale Ernest et Louis Lessieux accueille également une autre exposition qui présente l'univers équestre de l'artiste. L'exposition majeure est au château de Bonnemie. Elle réunit peinture et sculpture autour du lien entre l'homme et la mer, avec une création originale au cœur du travail de l'artiste, l'homme-poisson, Arnaud Casper.
L'homme-poisson, en fait, ce n'est pas un homme qui ressemble à un poisson. Non, tout simplement, c'est une création. C'est comme une forme, un logo, enfin une silhouette qui, dans un premier temps, évoque la forme du poisson. Et quand on le met à la verticale, d'ailleurs, ça a du sens, parce qu'à la verticale, en fait, je signifie le réveil de la conscience humaine. Donc là, ce poisson fait penser à un profil d'humain. Je présente de la peinture, je présente des créations en trompe-l'œil fabriquées par exemple avec... Il y a une création qui est fabriquée avec des palettes, un ensemble de palettes de la récup, et ça représente ce fameux poisson en trompe-l'œil. Mais il y a aussi des créations qui sont plus ciblées Île d'Oléron. J'ai reproduit par exemple le phare de la Cotinière avec une espèce de vague géante derrière. Enfin bon, il y a une interprétation de ma part du milieu marin, et puis j'ai essayé de faire des créations qui rappellent un petit peu, j'ai envie de dire, je ne vais pas employer le mot cliché, mais le style un peu traditionnel de l'Île d'Oléron.
Exposition qui s'inscrit également dans une dimension locale.
Je m'amuse parce que je l'ai égaré en fait. Hein. J'ai lancé un petit avis de recherche. Souvent, l'homme-poisson, il existe dans différentes tailles. Soit il est sous forme de pendentif, soit il est sous forme de petite sculpture, même monumentale. Il y a une version de 7 mètres de haut qui se trouve dans un lieu, en fait, on va dire culturel, à Courbevoie, l'espace Carpeau. Et cet homme-poisson, en fait, il a été exposé un petit peu partout, y compris à la Madeleine. Il a été embarqué aussi sur des bateaux de la Marine nationale, comme une frégate anti-sous-marine. En fait, j'ai fait également sur le Mutin, sur la Belle Poule, en fait, j'ai fait le tour du monde avec cet homme-poisson. Et en réalité, j'ai fait le tour de l'île d'Oléron avec cet homme-poisson. Donc, j'ai réalisé plein de photos de cet homme-poisson intégré dans les lieux un peu symboliques, chers aux habitants, aux visiteurs de l'île d'Oléron. En fait, j'adore quand l'œuvre d'art s'intègre dans la nature.
À découvrir jusqu'à samedi prochain au château de Bonnemie et à la médiathèque à Saint-Pierre-d'Oléron.
Demoiselle, interview.
Et on parle ensemble d'une nouvelle brochure intitulée Rochefort et l'Amérique du Nord, quand elle s'appelait La Nouvelle France, avec nos invités, co-auteurs et autrices, Evelyne Delorme, bonjour.
Bonjour.
François Béraud, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marie Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Expliquez-nous déjà simplement pourquoi vous avez souhaité écrire cette brochure très passionnante.
Eh bien, d'abord, c'est notre manière de participer aux 250 ans de l'indépendance américaine, d'une part, et de soutenir un petit peu ce qu'a dit le roi d'Angleterre lorsqu'il est allé justement aux États-Unis, c'est que s'ils n'avaient pas été là, les Anglais, eh bien, ils parleraient français, les Américains. Donc, ça nous a un petit peu interpellé tout cela. Et effectivement, on croit connaître à peu près l'histoire des États-Unis et de savoir qu'est-ce qu'on a pu y faire, parce qu'on pense toujours au marquis de Lafayette ou bien au bateau l'Hermione qui a été construit à Rochefort. Mais en fait, avant les États-Unis, il y avait une histoire. Et cette histoire, c'est la nôtre. C'est celle de la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France, ce n'est pas quelque chose de petit. Ça allait depuis le nord du Canada, c'est-à-dire la baie d'Hudson, jusqu'au sud, c'est-à-dire le golfe du Mexique, enfin maintenant le golfe des États-Unis. Et ça allait de l'autre, des Appalaches jusqu'aux Rocheuses. C'est-à-dire, c'est un immense territoire qui donc était la Nouvelle-France et qui était français au moins pendant à peu près 2 siècles. Donc, on a voulu découvrir, et là, on a été vraiment submergé par les découvertes. Plein de choses qu'on ignorait complètement.
Et vous me disiez, en fait, tout est parti de Rochefort.
Oui.
C'est-à-dire
c'est parti de Rochefort parce que, bon, Rochefort a été construit en 1666 à l'initiative du roi Louis XIV, qui voulait justement gérer un petit peu les rapports entre la royauté d'une part et puis cette nouvelle colonie, puisque c'est notre premier empire en fait. Et donc il fallait quelque chose, enfin, il fallait une ville qui soit capable de gérer l'interconnexion entre les deux. Et c'est ce qui a été l'arsenal de Rochefort, qui était en même temps l'arsenal des colonies et qui était totalement ouvert sur l'Atlantique. Et donc toutes les interactions passaient par Rochefort.
François Béraud, vous vous êtes intéressé à certains personnages marquants,
oui,
c'est-à-dire.
En effet, on peut parler du premier et du plus intéressant et du moins connu, c'est Pierre Dugas-Demont, qui est né à Royan. Il est protestant. Il a une proximité avec le roi Henri IV, qui l'envoie pour établir une colonie en Nouvelle-France, en Acadie. Il l'envoie en Acadie. Et en fait, Pierre Dugas-Demont est le personnage qui est à l'origine de la Nouvelle-France, véritablement. Malheureusement, il est très peu connu, ou moins connu, que Champlain, Samuel Champlain, qui lui a effectivement créé véritablement le Canada. Mais c'est Dugas-Demont qui l'a cornaqué, si je puis dire, et qui l'a envoyé au Canada.
Voilà. On a aussi d'illustres familles.
Oui, des familles, par exemple, une famille canadienne, qui sont les Lemoines. Et là, il y avait 11 garçons qui ont presque tous eu leur rôle à jouer. Et le père avait été adopté par les Iroquois. Et c'était un coureur des bois, et qui avait été anobli quand même grâce à ce qu'il avait pu faire pour la France. Et donc, tous ses fils ont eu la double culture, indienne et puis française. Et ils en ont profité. Tous sont passés comme soldats de la part des Français. Et un certain nombre sont montés très haut. Par exemple, le dernier des fils, qui est Sérigny, il est devenu carrément gouverneur de Rochefort, ce qui, pour un Canadien, c'est quand même pas mal. Un autre a créé la ville de Nouvelle-Orléans, c'est de Bienville. Et un autre encore est devenu gouverneur de toute la Louisiane. Donc ces gens qui sont donc à cheval entre les deux rives représentent ce qu'il y avait à cette époque. Parce qu'il n'y avait pas qu'eux, il y avait les Bégons, il y avait les Beauharnois, il y avait énormément de familles qui étaient à cheval entre les deux rives de l'Atlantique.
Jean-Marie Chapelle, vous vous êtes intéressé au rôle de l'État.
Voilà,
qui devait être primordial.
Le rôle de la monarchie, puisque que ce soit la colonie américaine, nord-américaine, son statut a été vraiment consolidé dans les années 1660, c'est-à-dire lorsque Louis XIV prend le pouvoir effectivement. Et presque simultanément, c'est aussi Louis XIV qui a créé Rochefort comme arsenal, comme Versailles de la mer, comme on dit, pour la façade atlantique.
Et Rochefort avait un rôle prépondérant.
Au point de départ, c'était principalement de faire des bateaux, voilà, comme Brest et Toulon et qui existaient déjà. C'était un nouvel arsenal. Et progressivement, pour différentes raisons, Rochefort s'est peu à peu orienté vers l'arsenal des colonies, c'est-à-dire les liens, que ce soit commerciaux, que ce soit militaires, que ce soit politiques, administratifs, est devenu un lieu privilégié dans les relations entre la France et la Nouvelle-France. En fait, Rochefort a été un interface entre Versailles et la Nouvelle-France pendant un siècle.
C'est une brochure en deux volumes.
C'est ça.
En deux temps, c'est-à-dire.
C'est ça. Donc, je laisse à
Evelyne.
Le premier temps, c'est l'épopée par elle-même, parce qu'elle est assez extraordinaire. Il y a donc les personnages extraordinaires, il y a les Indiens, les Amérindiens qui viennent se promener, si on veut, à Rochefort. Et donc, en fait, toute cette partie-là, c'est une épopée. Et puis, la seconde partie...
Alors, la seconde partie, elle est centrée justement sur la fin du XVIIe, le XVIIIe siècle, c'est-à-dire sur un siècle, 1660-1663, lorsque et Rochefort sont devenus une place conséquente et la Nouvelle-France une colonie administrée principalement par les autorités royales, ce qui n'était pas le cas dans une première période. Et donc pour mettre en évidence l'importance de la monarchie dans les relations qui se sont tissées entre Rochefort et la Nouvelle-France, je me suis appuyé sur trois thèmes majeurs, qui est l'administration, aussi bien de l'arsenal que de la Nouvelle-France, puisque ce sont les mêmes formations, pour une partie, les mêmes personnes qui ont œuvré et à Rochefort et à des postes importants en Nouvelle-France. Et je l'ai étudié à travers un certain nombre de biographies, un ministre, deux intendants qui ont beaucoup œuvré essentiellement au XVIIIe siècle. Et le second thème, ça a été le rôle des échanges entre Rochefort et la Nouvelle-France, puisque selon la philosophie économique de l'époque, les colonies devaient... être un support pour la métropole, contribuer à l'enrichissement de la métropole. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, la Nouvelle-France s'est vue devoir fournir des matières premières qui rentraient dans la construction navale, que ce soit le bois, que ce soit le fer, que ce soit le chanvre en particulier. Et inversement, les colonies étaient le client privilégié de ce que la France, grand pays économique, agricole, artisanal, etc., produisait pour équiper cette colonie qui était une colonie de peuplement. Ces échanges étaient là aussi pilotés par la monarchie, puisque c'était des échanges sur les biens publics. Et le troisième volet,
rapidement,
c'est le volet militaire, qui est sûrement le plus important, parce que ce soit à Rochefort ou que ce soit en Nouvelle-France, ce sont les mêmes armes, les mêmes bateaux, les mêmes hommes qui ont œuvré tant pour la sécurité de Rochefort que la lutte contre les menaces anglaises en Nouvelle-France.
Evelyne Delorme, dernière question, où trouve-t-on la brochure ?
On la trouve à la Maison de la Presse et à la librairie Pierre Loti.
à Rochefort. Merci beaucoup à vous trois. On passe maintenant au loisir du jour dans Quartier d'été.
C'est dommage, je ne peux pas
parler. Les quartiers d'été.
En Pays Marais de l'Héron, à Labré, la place du marché accueille les performeurs de feu. Le spectacle commence à 23h. En Pays Rochefortais, à Four, à concours de pétanque en doublette au boulodrome, ça commencera à 14h30. En Pays Rouennais, à Saint-Georges de Didonne, une animation folklorique, une cagouillade à partir de 19h sur la place des Cagouilles. Et puis en Pays Saintet, à Sainte, une visite enquête au Lampion en juillet 1750. C'est à 21h au musée du Puy-Mestrault. Il faut réserver auprès de l'office de tourisme.
Manger des produits de saison avec la ferme des Quatre Ânes. Retrouvez dans cette épicerie fermière toute une gamme de produits frais réalisés ou cultivés par plus de 40 producteurs locaux. Viande, volaille, fromage, légumes, fruits, pinot, rosé, il y a du choix. La saison des grillades est là. Sur plus de 300 mètres carrés, retrouvez toute la fraîcheur et la saveur d'une bonne alimentation. Ouverte du mercredi au samedi, la ferme des Quatre Ânes, c'est dans la zone commerciale sortie Rochefort, direction La Rochelle. Et pour plus de proximité, retrouvez également toutes ces saveurs à la ferme de la Varenne à Tonnet-Charente. Rendez-vous sur leur page Facebook. Sachez consommer avec modération pour votre santé. Bougez plus.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Il va faire toujours aussi chaud, Mickaël.
Voilà, une météo qui se résume en un seul mot, canicule, tout simplement. Sur le littoral, les températures seront un peu plus supportables grâce à l'influence de l'océan. Forcément, comptez 29 jusqu'à 33 degrés sur Oléron, 33 à 35 degrés du côté de La Rochelle, Rochefort ou Royan. À l'intérieur des terres, c'est un peu moins supportable, malheureusement. 38 degrés en moyenne du côté de Sainte-Saint-Jean-d'Angély et Jonzac et Montguyon. Le vent reste faible, ce qui renforce bien sûr cette sensation de chaleur tout au long de l'après-midi. Je vous le dis tout de suite, hein, les températures très chaudes. Jusqu'à dimanche, on aura un pic aux alentours d'une quarantaine de degrés. Et puis la semaine prochaine devrait être chaude également, peut-être un petit peu moins que cette semaine.
Il est peut-être temps de refaire votre intérieur. Peinture fanée, papier peint décollé, moquette tachée. Pour retrouver une maison à l'intérieur colorée et raffinée, pensez à AD Peinture. Pour tout travail de peinture, effets de matière, revêtement de sol et mur, décoration personnalisée, AD Peinture vous conseillera. AD Peinture, c'est également l'extérieur de votre maison, de la toiture à la terrasse, ravalement, démoussage et traitement. AD Peinture se déplace sur tout le département. 06 33 37 10 84, études et devis gratuits. AD Peinture vous souhaite un bel été.
Merci d'avoir suivi cette édition. Très bonne journée sur Demoiselle.